Je vais vous parler de soif. Soif de quoi, hein? On va le voir, on va le développer. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de soif. Et je regardais que, finalement, la soif, c'est ce sentiment, hein, c'est un signal physiologique. Et que ressentir la soif au cours de la journée est parfaitement naturel. Quand ça existe, hein, moi j'ai connu des personnes qui n'ont jamais la sensation de soif. C'est terrible ça. Et donc, ressentir la soif au cours de la journée, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Et il y a des fois quelques dysfonctionnements, quelques maladies qui peuvent se rapporter à la soif, notamment, alors je l'ai découvert, hein, la polydipsie, c'est avoir soif tout le temps. Que Dieu fasse qu'au milieu de nous, il y ait beaucoup qui soient, alors je vais le dire, polydipsie. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Voilà, qu'on soit polydipsie afin d'avoir soif en tout temps, soif de la présence de Dieu, soif de Dieu, soif de plus de Dieu, avoir de l'ambition pour le Seigneur, et puis glorifier le Seigneur et que le Seigneur puisse nous utiliser en toute humilité. Alléluia, amen. Quand on parle de soif, il y a cette image. Le Seigneur nous parle au travers d'images. Et souvent, il va prendre des images de la nature pour nous faire comprendre des réalités, hein, réalités profondes. Et quand on parle de soif, on va lire ensemble le psaume 42, les premiers versets, hein. Psaume 42, c'est les versets en introduction. Au chef des chantres cantiques des fils de Corée. Verset 2. Comme une biche soupire après les des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu ? La question, elle est posée. Et donc, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la soif, avoir soif. Mais quand on parle de soif, finalement, c'est avoir soif de quoi ? Tout d'abord, on l'a vu, c'est avoir soif d'emblée de la présence de Dieu. Avoir soif de Dieu. C'est sûr que nous tous qui sommes ici présents, nous avons eu à un moment donné de l'ambition, nous avons de l'ambition, et c'est des bonnes choses, mais la chose tellement fondamentale que le Seigneur veut retrouver en chacun d'entre nous, c'est avoir soif de lui, avoir soif de sa présence. Et si le psalmiste, c'est ce qu'il est en train de dire, et il donne cette image, comme une biche, elle soupire après les eaux, quelque chose de tout à fait normal et naturel. Mon âme a soif, mais pas de n'importe quoi, du Dieu vivant. Vous êtes OK pour dire avec moi que Dieu est vivant ? Alléluia ! Dieu est vivant. Hein. Donc Jonathan, il l'a dit plusieurs fois, Jésus-Christ est allé à la croix, il a payé pour nos péchés. Désormais, nous sommes libres devant lui. La mort n'a pu le retenir et cette puissance, elle a été révélée. Et donc, il est ressuscité, il est vivant et il vit dans nos cœurs. Ça, c'est merveilleux. Amen. Cette image de la biche qui a soif, c'est une image finalement toute simple, toute banale. Mais j'aime beaucoup la simplicité de la Bible. Alors, ça c'est la parenthèse. Hein. Il y a des choses qui sont simples. Et nous, en tant qu'êtres humains, on aurait tendance à les compliquer. C'est tellement simple, comme une biche. Elle soupire après l'eau. Mon âme soupire après le Dieu vivant. Amen. Il y a des animaux qui nous enseignent. Hein. Il n'y a qu'à voir un peu partout dans la Bible. Il parlait de plusieurs animaux. Et donc ici, c'est l'image de la biche. Elle a soif de l'eau qui désaltère. En fait, elle a soif de tout ce qui est vital pour elle. La biche, elle a soif, pas de n'importe quoi, de l'eau. Et nous-mêmes, je l'ai dit déjà plusieurs fois, nous avons besoin, réellement besoin, hein, de réaliser qu'est-ce qui est vital pour ma vie. C'est quoi le plus important dans ma vie ? Est-ce que c'est d'avoir certains biens matériels, hein? Alors, encore une fois, alors c'est pas, j'allais dire c'est la parenthèse, oui, si on veut. Voilà. Dieu n'est pas contre les biens matériels, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire à un moment donné. Pour être béni de Dieu, il faut être pauvre. Pas vrai, hein? C'est pas vrai. Dieu, les hommes de Dieu dans la Bible, la plupart donc avaient voilà des choses, des richesses, mais en tout cas voilà, c'est l'attachement à ces choses qui est un problème. Et on ne doit pas s'attacher à ces choses-là. La première des choses que l'on doit s'attacher, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu et du Dieu vivant, donc de ce qui est vital. Et chacun d'entre nous, si nous poursuivons ces choses-là, il y a « Seigneur, j'ai soif, moi, de toi, tout simplement. J'ai soif de ta présence. » Alors le Seigneur va venir, il va nous bénir, et non seulement il va nous bénir, mais il va nous donner au-delà de ce que l'on peut penser, même, ou imaginer. C'est sûr et certain, hein, maintenant on se côtoie depuis quelque temps, je sais que pour la plupart vous avez beaucoup d'imagination. Mais Dieu est capable au-delà de faire au-delà de tout ça. Parce que Dieu, quand il donne toujours avec abondance, c'est dans sa nature, alléluia, que son nom soit béni. Quand on évoque cette soif, on évoque une profonde soif spirituelle, soif de la présence de Dieu. Ce matin, je réalisais, je l'ai dit, je l'ai verbalisé en disant, Seigneur, j'ai un privilège d'être dans ta présence. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas rentrer dans cette présence de Dieu à cause de quelque chose de tellement voilà, fondamental, qui n'est pas à banaliser, surtout pas à cause du péché. Nous avons été admis et acceptés dans la présence de Dieu. Le psalmiste va le dire dans le psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alors ici, on voit finalement la motivation du psalmiste. Sa motivation pour lui, il dit, ben, en fait, je suis tellement heureux de ce que tu m'as choisi. Est-ce que vous savez que vous avez été choisi par Dieu? C'est tout l'effet que ça vous fait. Eh oui, hein, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été, alors je le dis comme ça, sélectionnés par Dieu. Moi, je me souviens à un moment donné, hein, quand il y avait des sélections dans le sport ou autre. En général, quand on sélectionne, c'est pour resserrer l'élite, on va dire, et on va sélectionner les meilleurs. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Et merci. Parce que finalement, à un moment donné, on n'était pas meilleur que qui que ce soit. Mais le Seigneur nous a choisis, c'est le choix souverain de Dieu de nous sauver. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Et le psalmiste, donc, il dit ici, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets. » Nous sommes admis dans sa présence. Et que surtout personne ne s'habitue à ces choses-là. Mais que dans nos cœurs, ça vienne nous bousculer au point de nous ébranler. Nous ébranler à bien des niveaux. Au niveau de la timidité. Il faut qu'on se bouscule pour faire cette prière. Il faut vraiment qu'on puisse s'unir, et j'apprécie hein, ce moment où tous ensemble, on élève notre voix, mais également individuellement. Je sais également que l'on peut passer des heures à parler, en dehors, voilà, quand la réunion est terminée, mais que dans un premier temps, nous puissions repasser dans notre cœur. Seigneur, je veux te dire merci. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de faire de longs discours, simplement un cœur reconnaissant, en disant, Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu m'admets dans ta présence. J'ai le laissé-passer pour être dans ta présence. Et ce laissé-passer, vous savez ce que c'est, hein? C'est le sang de Christ. Donc, il donne sa vie, il donne son Fils pour chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, la Bible nous dit que nous devenons à ce moment-là enfants de Dieu. Avec des droits, avec des privilèges, avec des responsabilités, ça c'est clair. Et c'est ce que le psalmiste comprend, celui que tu admets en ta présence, parce qu'il habite dans tes parvis. Là c'est très important aussi, dans tes parvis. C'est-à-dire que le Seigneur, il nous bénit, il nous donne des bénédictions. Donc déjà, c'est ce qu'on appelle les arts, hein, dans Romain, c'est les arts de l'esprit, c'est les parvis. C'est, il nous donne un avant-goût du ciel. En fait, c'est ça. Au ciel, quand nos yeux vont se fermer ici-bas, ou si le Seigneur revient nous chercher cet après-midi à 14h30, c'est possible, hein, on sourit. C'est possible, Jésus peut venir à 14h30. L'heure et le jour, on ne le sait pas, mais il faut être prêt. Et donc, les parvis, c'est un avant-goût du ciel. Et béni soit Dieu. Combien de fois on a pu expérimenter dans une réunion comme celle-là, toute simple, où à un moment donné, la présence de Dieu va tomber, l'onction, ce qu'on appelle l'onction de Dieu, va tomber sur chacun d'entre nous. Et là, ben on a beau faire, hein, on a beau être un leader qui essaye de conduire, là on laisse faire parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Et quand on sort le temps, on est hors du temps finalement. Hein. Et là, quand on sort de ces moments comme ça, on a été renouvelé. Quelque chose de nouveau qui est venu se déposer dans notre cœur. Peut-être qu'on est rentré abattu, des problèmes, des soucis, des tracas, donc des situations complexes. Mais dans la présence de Dieu, elle a donc cette puissance de venir nous relever, venir nous visiter. Et ce, tant de fois qu'on en a besoin. À chaque fois qu'on a besoin de cette présence de Dieu, le Seigneur est là. Alléluia. Il dit donc dans les parvis. Et là, il parle. Regardez, il change. Et là, maintenant, c'est en tant que peuple. Nous nous rassasirons de ce bonheur, du bonheur de ta maison. Alléluia. Il y a un bonheur de se retrouver ensemble. Je ne sais pas si c'est la première réaction que vous avez eue ce matin quand le réveil a sonné. De vous dire, ce matin, je vais aller dans la maison de Dieu. Alors, quand on parle de maison de Dieu, c'est nous-mêmes qui formons l'Église, hein, vous le savez. Hein. Nous, souvent, on le réduit à un bâtiment. Voilà, si on se réunit dehors, on reste quand même l'Église de Christ. Et là, ici, donc, celui qui a écrit ces paroles, qui est inspiré par le Saint-Esprit, il dit, nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Pourquoi ? Parce que c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Si on vous disait, hein, je ne sais pas, hein, on continue avec 14h30, cet après-midi, à 14h30, si vous allez à la place du Capitole, il va y avoir à un moment donné la présence de Dieu qui va être relâchée et vous allez être béni. Je pense qu'à partir de 14h, hein, on va zapper la sieste et puis on va se dire, bon, il faut que j'y aille en fait, hein, parce que la présence de Dieu est là. En fait, ça nous montre que à chaque fois qu'on se réunit, la présence de Dieu, elle est là. Mardi soir, 20h. La présence de Dieu est là. Je n'ai pas eu un amen, mais je m'y attendais. C'était marqué dans les notes. Le vendredi, on va le voir avec les annonces, la présence de Dieu est là. Le samedi avec les jeunes, la présence de Dieu, elle est là. Un samedi sur deux avec les ados, la présence de Dieu est là. Et le dimanche matin, quand on se réunit, la présence de Dieu est là. Alors moi, je ne sais pas vous, quelle est votre ambition. Mais moi, cette soif, elle me dit, mais là où il y a la présence de Dieu, je veux y être. Je veux m'y trouver. Et je ne veux pas laisser quoi que ce soit, et je ne veux pas me laisser déborder par quoi que ce soit. Un jour, quelqu'un me disait, « Pasteur, vous comprenez, en semaine, c'est compliqué. » Alors, bien sûr, on peut comprendre. Hein. Des fois, c'est difficile de pouvoir allier voilà, les préoccupations. Et puis après, dans les discussions off, hein, on va dire, entre nous, on parle de certaines choses normalement. Et puis, je m'aperçois que finalement, des fois, il y a des soirées, puis on va faire du sport. Il faut faire du sport. Hein. D'ailleurs, c'est ce que me dit Henriette régulièrement. Il faut que je reprenne... vraiment sérieusement. Et voilà. En fait, ça sous-entend quoi ? Que les priorités sont inversées. Bien sûr qu'il faut s'occuper de notre corps. Mais avant tout, il faut s'occuper de l'être spirituel et régénéré. Et c'est pour ça, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Peut-être que certains pourraient dire, on est loin, on ne peut pas se déplacer. Et encore aujourd'hui, après un peu plus d'un an à être au milieu de vous, il n'y a personne qui est venu me voir pour me dire, « Pasteur, je souhaiterais participer le mardi soir à la réunion de prière, mais je ne peux pas me déplacer. » On aurait trouvé une solution. Il y a toujours des solutions. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, vidéo ou autre, beaucoup de moyens. Ça dénote quoi ? Alors ce message, voilà, dans une seconde partie, va être un peu plus incisif parce qu'il faut impérativement, si on a soif, Voilà, c'est important de mettre des choses en place. Et pour le devenir de l'Église, il y a des bases fondamentales qu'on ne peut pas bouger. Si le Seigneur avait prévu que la prière ne serait pas importante, il nous l'aurait dit. Et si le Seigneur nous dit que c'est important que le peuple s'unisse à l'heure de la prière, de se tenir pour réclamer les âmes, réclamer plus d'onction, réclamer plus de la présence de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur l'a prévu. Alors certes, quand on reçoit cette parole-là, il y a deux réactions. Hein. Soit on l'accepte, on dit « oui, c'est vrai, on se remet en question, Seigneur, donne-moi cette soif. » Parce que j'ai peut-être perdu cette soif de me retrouver à l'heure de la prière. Ou alors, banaliser, encore une fois, dire « bon, voilà, le pasteur, il gesticule, il a chaud, ça va lui passer. Laissons-le, ça va lui passer. » Alors je prie moi, hein. Je prie Dieu pour que ça ne passe pas. Parce qu'en fait, j'ai vite compris que la prière, alors je sais que vous priez à la maison, il n'y a aucun souci avec ça, mais la prière en église, être ensemble, c'est une force. Et pour détruire certaines choses, détruire l'incrédulité, même pour vos besoins personnels, quand on est plusieurs, je disais mardi dernier à quelqu'un, je dis, est-ce que tu crois à la valeur ajoutée de la foi? Alors elle m'a regardé parce qu'elle ne savait pas trop. Je dis, moi je crois que si je viens avec ma foi et toi tu viens avec la tienne, eh bien, déjà on double la dose de foi. Et plus on est, et plus il y a de la foi et le Seigneur se manifeste. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et donc le Seigneur veut nous rassasier, veut que nous puissions comprendre le bonheur de ta maison, la sainteté de ton temple. Un autre verset qui va dans le même sens, celui-là vous le connaissez bien. Regardez l'état de cœur, l'état d'esprit, encore une fois, du psalmiste. Psaume 27, verset 4. Si le Seigneur vous posait la question, demande-moi ce que tu voudras, là, maintenant, et je te l'accorde. Alors ne répondez pas, répondez dans vos cœurs. Qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu? Ça c'est une bonne question, hein, vous ne trouvez pas? Regardez le psalmiste, lui. La prière qu'il fait. Je demande une chose que je désire ardemment. Ça bouillonne dans mon cœur. Et je ne peux pas. J'essaye de rejeter cette pensée, mais je ne peux pas. Je voudrais habiter toute ma vie. Où ça? Dans la maison de l'Éternel. Pourquoi faire? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Que Dieu fasse que cette motivation, avoir soif, c'est avoir soif de cette présence, d'être ensemble. Je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, parce qu'il a compris la puissance qu'il y a, la puissance qui se dégage quand le peuple s'unit, deux ou trois, rassemblés en son nom. Le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Je pourrais vous raconter tellement d'expériences que nous avons fait ensemble, en tant qu'Église. Je prends une. À un moment donné, dans l'église où on était, mon fils qui habitait à côté du pasteur m'appelle et me dit « Papa, il y a un souci chez le pasteur. Voilà, il y a les pompiers, ils sont là depuis pas mal de temps. Voilà, il semblerait qu'il y ait quelque chose de grave. » Alors, je me déplace, j'y vais, et c'était une de leurs filles, hein, les trois ou quatre filles, une de leurs filles qui est tombée d'une hauteur, hein, donc un lit jumeau, et elle est tombée sur la tête. Et donc là, je vous promets que ça déstabilise. Et quand ils ont commencé à la prendre, moi, quand je suis arrivé, donc la porte des pompiers, ils allaient partir, elle s'est ouverte, je sais pas, la maman ou le papa descendait, et moi, j'ai vu la petite. Je vous promets, on n'est pas là, je suis là devant vous, je ne peux pas mentir. Elle était morte. Elle était morte. De suite, sans que le pasteur dise quoi que ce soit, ils partent évidemment en catastrophe, prend le téléphone, on appelle, est-ce que dans 30 minutes on peut se réunir à l'église? Voilà, j'explique vite fait. On se retrouve, dans les 30 minutes, on se retrouve une cinquantaine de frères et sœurs à l'église, gloire à Dieu. Et on a intercédé, on a prié, Seigneur, ne permets pas. On a prié, tout ça pour imagez hein, ce que je suis en train de vous dire. Et au milieu de l'intercession, au bout de, je ne sais pas, 30 minutes, 40, on a senti que l'atmosphère changeait et que ce n'était plus le temps d'intercéder, c'était le temps de remercier le Seigneur. Ce qui sous-entendait que Dieu avait agi. On termine, donc on a terminé en louange, on termine, ça a duré une heure et quart, on est sorti, coup de fil, ça va mieux, c'est rien du tout, voilà, et les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà le Dieu que nous servons. C'est le même. Ce que le Seigneur a fait, il peut le faire et il le fera assurément. Alléluia. Nous voulons admirer, nous voulons nous trouver ensemble, voilà, comme un seul corps afin de glorifier le Seigneur. Amen. Donc quand on parle de soif, soif tout d'abord, premier point, de la présence de Dieu. Et une fois que cette présence de Dieu, nous y avons goûté, on doit la cultiver. Cultiver, alors comment cultiver, c'est entretenir, hein. C'est entretenir ce jardin intérieur. Ceux qui ont un jardin, vous savez qu'il faut entretenir. Hein. Si on n'entretient pas, on est vite débordé. Et donc cet entretien, cultiver la soif de Dieu, comment ? Dans notre relation d'amour avec le Seigneur. Nous avons entamé une relation d'amour, et d'abord c'est lui qui nous a fait comprendre que Dieu nous aimait. Il nous aime. Il nous aime. Si tu n'as jamais goûté à l'amour de Dieu, recherche Dieu. Il va te faire découvrir cet amour. Donc, l'entretenir par cet amour. L'entretenir comment ? Se mettre à part. Prendre du temps dans la présence du Seigneur. Comment ? Dans le jeûne, dans la prière. Entretenir cette soif, c'est également qu'il y ait toujours dans nos cœurs cette reconnaissance et cette louange. Que à chaque fois qu'on ouvre la bouche, notre premier réflexe, c'est de louer le Seigneur. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Vous savez que le Seigneur ne nous doit rien. Aujourd'hui, si nous respirons, c'est un effet de sa grâce. Et on doit pouvoir lui dire, Seigneur, je te remercie, parce que tu me donnes ce souffle de vie. Donc soyons reconnaissants. Alléluia, et que nous puissions lui apporter chaque jour la louange. C'est tellement bon, dès le matin, de fixer les regards vers le Seigneur, de l'adorer, tout simplement, de repasser combien de fois il a été bon. Et également, si on traverse des moments difficiles, de se dire, Seigneur, tu l'as été. Aujourd'hui, peut-être, à cause de la situation qui est là, c'est flou. Je ne vois plus très clair, mais je sais que tu es bon. Ça, c'est les paroles de foi. Et je sais que ta bonté va se révéler encore de plus en plus dans ma vie. Mon sphère de louange, évidemment, la lecture de la parole, ça c'est entretenir. La contemplation. Ça vous arrive de contempler l'œuvre de Christ ? Souvent on chante ce chant, hein, « Quand je contemple ta sainteté, je suis sûr et certain. » Si on l'entonne là, maintenant, on le chante tous par cœur. Ce chant, on le connaît si bien. Mais est-ce que réellement on le fait ? Je te contemple, Seigneur. Je contemple ton œuvre. Que je ressente sa présence ou que je ne la ressente pas. Ce n'est pas dépendant de ça. Je contemple ton œuvre, je contemple ta gloire. En fait, ça, c'est une attitude de foi qui plaît à Dieu. La crainte de Dieu, ça entretient également cette soif. La crainte de Dieu, c'est avoir ce respect de Dieu. Respect de qui est Dieu. On ne s'approche pas de Dieu comme on s'approche de n'importe qui. D'ailleurs, on le fait, hein, quand il y a des personnages importants. Et on ne peut pas se présenter, coucou, c'est moi. Hein. Mais voilà, quand même, certaines attitudes à avoir, mais Dieu est Dieu. J'ai bien aimé ce matin, quand Christine, tu as dit, voilà, que Dieu, était le grand Dieu de l'univers, mais qu'il était également notre Père. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Alors peut-être que pour quelqu'un, quand on dit que Dieu est un Père pour nous, ça va venir créer quelque chose de fort dans notre cœur parce qu'on a mal vécu une situation. Ça va nous ramener peut-être à certaines choses négatives. Mais ce n'est pas de ce modèle de Père dont il est parlé. C'est du Père parfait. C'est le Père qu'on aurait aimé avoir. Et Dieu se révèle comme ça, en fait. La contemplation, la crainte de Dieu, la foi, la communion fraternelle, ça je l'ai dit tout à l'heure. Ces choses-là permettent d'entretenir cette soif. Alléluia. Et il y a ce verset que l'on connaît bien également. Je vous dis, Proverbe 4, 23. Vous avez la référence ? Juste, je vous dis le premier mot. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi ? Car de lui viennent les sources de la vie. Et je bénis Dieu que ce verset est dans sa parole. Parce que c'est un message de Dieu qui nous, il nous prévient. Garde ton cœur. Garde ta soif de la présence. C'est ça en fait. Hein. Parce que si tu ne gardes pas, il y a, on dit que, voilà, à un moment donné, je ne trouve plus le mot. Voilà, je ne trouve plus le mot. À horreur du vide. La première partie, là. La nature a horreur du vide. C'était tout simple finalement. La nature a horreur du vide. Le cœur aussi. On n'est jamais neutre. Il n'y a jamais un temps où on se dit, bon voilà, là c'est bon, je vais attendre un peu. Non. C'est soit on avance, soit on repart derrière. Garde ton cœur plus que toute autre chose. D'ailleurs, c'est là où on doit être vigilant. C'est là où on doit mettre des gardes autour de notre cœur, pour protéger certaines choses qui sont tellement importantes. On sait que le cœur est fragile, il se brise facilement. Et c'est là où attaque également l'ennemi, dans des choses qui vont venir nous blesser. Là, ça me vient, là. Vous vous rendez compte quand Jésus, qui a vécu 3 ans et demi, avec tous les disciples, et notamment avec Judas, des fois on aurait tendance à l'oublier. Vous avez remarqué que, souvent, voilà, certaines personnes donc donnent des noms à leurs enfants, des noms bibliques. J'ai rarement entendu quelqu'un s'appeler Judas. Comment Judas a livré Jésus ? Par un baiser. C'est par ce biais-là, il voulait atteindre le cœur du Seigneur Jésus-Christ pour briser l'amitié. Mais Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne s'est pas laissé avoir. Au contraire, hein, il va le regarder, ben, tout ce que tu veux, tu as à faire, fais-le. Ça, c'est le cœur du Seigneur Jésus. Donc, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, il est en train de dire, si tu gardes ton cœur, tu gardes des choses précieuses, si tu as toujours soif, alors, il va y avoir les sources de la vie. Amen. Je sais que dimanche dernier, par exemple, Vincent vous a parlé, hein, des sources. Il vous a parlé de sources, c'est un peu la continuité finalement, de dimanche dernier, avoir soif. Quand on a soif, il y a une vigilance vraiment extrême. Alors le troisième point, je l'ai intitulé comme ça, attention à la fuite. Alors là je vois tous au-dessus de vos têtes des gros points d'interrogation. Voilà, on va le développer. C'est Jérémie chapitre 2, versets 12 et 13. C'est Dieu qui parle. Et écoutez ce message, ce reproche que Dieu a à faire à son peuple. Et ce message-là, ce n'est pas l'image d'un Dieu méchant qui veut finalement que notre malheur. C'est un message d'amour. Il est en train de dire où est le véritable problème. Où est... Hein, où a été cette fuite ? Et regardez l'image encore une fois. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Et c'est le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors on dit amen pour la parole, mais c'est dramatique. En fait, le peuple de Dieu, ils se sont eux-mêmes creusés. Donc, un double péché. Le premier, ils m'ont abandonné. Vous savez que l'abandon ne se fait jamais par hasard. L'abandon, quand on abandonne quelque chose, c'est toujours conscient. C'est qu'à un moment donné, on met le doigt dans l'engrenage. Et des fois, il y a un processus qui est là. C'est pas grave, pasteur. Ne t'inquiète pas, pasteur, je gère la situation. Combien de fois on l'a pu l'entendre? Et puis, l'abandon, donc c'est toujours consciemment qu'on abandonne. Pour faire quoi, ce peuple-là? Pour creuser, c'est-à-dire donc des citernes. C'était des puits à l'époque. C'était des retenues d'eau pour les animaux. Donc le Seigneur avait donné de l'intelligence. Ils allaient, partout où ils allaient, ils creusaient donc des puits, des citernes pour que les animaux puissent boire. Et les citernes servaient à stocker l'eau. Et là, ici, donc cette citerne ne servait plus parce qu'il y avait une fuite. C'est pour ça que je disais, attention à la fuite. Et quand il y a une fuite, ben, il faut colmater de suite. Parce que sinon, l'issue, on la connaît. L'issue, elle est tragique. Je remarque également, Dieu dit, ils se sont creusés. Dites-moi, creuser, ça demande de l'effort. Hein? Donc ça sous-entend qu'ils ont mis leur effort à se creuser un puits, une retenue d'eau, une citerne, mais elle est crevassée, c'est son problème. Que Dieu fasse, qu'on puisse permettre à Dieu de regarder dans nos cœurs s'il n'y a pas des crevasses. Encore une fois, ça nous est tous arrivé, on a vécu un bon moment dans la présence de Dieu, on passe le pas de la porte, complètement oublié, et souvent on dit, est-ce que quelqu'un se souvient du message de dimanche dernier? Ça c'est le test. Alors là, on ne sait pas trop, parce qu'on aurait tendance finalement à oublier certaines choses. L'homme de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur, à un moment donné, a eu tendance à oublier le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre. C'est Timothée. Et l'apôtre Paul va venir lui dire, Timothée, souviens-toi de Jésus. Et à la place de Timothée, on peut mettre notre prénom. Comme une mise en garde, un but à atteindre, et également une motivation. Entel, souviens-toi de Jésus. Ce qu'on a fait ce matin, au travers du pain et du vin, ça reste du pain et du vin. Mais on s'est rappelé de l'œuvre de Christ à la croix du calvaire, que surtout personne au milieu de nous n'ait pu prendre ce pain, ce vin, banalement et machinalement, j'ai envie de le dire. Et que ça est venu à un moment donné chercher quelque chose au fond de notre cœur, Seigneur. Moi qui ne méritais pas tout ça, tu me l'as accordé parce que tu es un Dieu rempli d'amour et de grâce. Alléluia. Attention à la fuite. Ils ont creusé de leurs propres mains, donc il y a eu ces efforts. La symbolique, c'est que ces puits avaient besoin d'entretien. On sait comme puits, quand il n'est pas entretenu, les citernes, si ce n'est pas entretenu, donc à un moment donné, ça va se crevasser. Comment ça peut se crevasser? La fuite, elle peut commencer où? Par la paresse, première chose. La paresse, celui qui aime la paresse, donc, il aime le sommeil. Alors, bien sûr, le sommeil, quand il est réparateur, il n'y a pas de souci. Mais aimer plus que la mesure, c'est ça le souci. La paresse, celui qui est paresseux, va toujours chercher des excuses. Et je vous promets qu'en tant que pasteur, un jour je l'ai dit dans une prédication, je ne crois pas que c'était ici, un jour peut-être à la fin, j'écrirai un livre sur toutes les anecdotes et toutes les excuses qu'on a pu me dire. Pasteur, je ne peux pas parce que ceci. Pasteur, je ne peux pas parce que cela. Et voilà, les excuses. Alors, des fois, il y a des excuses qui sont valables, il n'y a aucun souci. Des fois, on regarde, on se dit, mais... Alors, je vais le dire comme ça, que personne ne s'offusque. J'ai la sensation qu'on me prend pour un perdreau de l'année. Ou pour le dire avec une image un peu plus... J'ai l'impression qu'on me prend pour un jambon. Vous connaissez l'expression? Eh oui, hein. Parce qu'en fait, on voit que... Ça ne tient pas la route. Et si moi je le vois, d'autant plus le Seigneur le voit, évidemment. La paresse, quand quelqu'un est paresseux, ben, il gaspille son temps, il gaspille son énergie. On sait que dans la Bible, il n'y a pas de place pour la paresse dans la vie du chrétien. J'ai essayé cette semaine de répertorier à chaque fois où la Bible parle de la paresse. Plongez vos regards dans le livre des Proverbes, vous allez voir. Proverbes, donc ce n'est pas négligeable. Notre nouvelle nature nous motive à travailler et à être productif. Ça nous ramène à la parole de Dieu, ce qu'a dit Jean-Baptiste. Et le Seigneur Jésus produisait des fruits. Produisait. Parce que la graine, elle a été là, et c'est à notre responsabilité d'entretenir, de dégager, d'enlever les mauvaises herbes, de mettre de l'engrais pour produire le fruit. Et le Seigneur s'attend à ce qu'il puisse venir lui-même manger ce fruit. C'est l'image du figuier à un moment donné qui a été maudit parce qu'il n'avait pas donc de fruits. Que Dieu nous garde de la paresse, que Dieu nous garde de la négligence. Être négligent et enfant de Dieu, ça ne va pas ensemble, ça ne colle pas, quelque chose qui ne marche pas. La négligence, c'est l'insouciance. Regardez quand il y a de la négligence, je dis, oh, c'est rien. Jérémie 48, verset 10. Regardez, ces paroles sont fortes. Ça commence comme ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il y a une malédiction ici. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc il est maudit, celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il y a également peut-être la fuite, c'est le laxisme qui pousse à ne pas considérer le cadre de la parole, que la parole de Dieu nous impose pour faire le bien. La conséquence de tout ça, c'est qu'à un moment donné, alors qu'on vient dans la citerne chercher de l'eau, la citerne est sèche. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui se dit chrétien et qui est sec. Ça se voit, pas de fruits. La vie est insipide. Et on le constate. Il y a cette image, à un moment donné, d'un homme qui se trouvait dans la synagogue. Il avait juste un petit souci. Il avait une main atrophiée, une main sèche. Alors, un peu la bizarrerie de l'histoire, c'est qu'il se trouve dans la synagogue alors qu'il n'avait pas le droit d'y être. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend tout simplement que s'il avait sa main atrophiée, il a pu rallonger son vêtement et personne ne le voyait. Et peut-être dans nos cœurs, il y a quelque chose qui est sec, personne ne le voit, mais Dieu le voit. C'est cette histoire. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser que quand on manque de la présence de Dieu, qu'on puisse spontanément revenir vers lui. Le psaume 32, verset 2, nous dit, voilà, cette aspiration de l'homme de Dieu, qui dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » On sait dans quelles circonstances ça s'est fait. Le péché, l'homme selon le cœur de Dieu qui à ce moment-là était sec. Et quand il se rappelle de tout ça, il dit, mais en fait, tant que je me suis tu, ce qui sous-entend, tant que je gardais cela au fond de mon cœur, alors j'étais en train de me dessécher. Plus tard, il va dire, mais je t'ai fait connaître. Ô Dieu, je t'ai fait connaître. Et ce matin, que surtout, ne puissiez pas vous dire, mais on passe au travers. Le Seigneur nous parle encore ce matin, en disant que le Seigneur, il nous voit, et que ce cœur sec, il veut le remplir, afin que de nouveau, l'eau puisse couler, et qu'on puisse la retenir. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, je termine, c'est le dernier point, avoir soif, c'est finalement la clé de la réussite. Qui veut réussir sa vie? Ben, tous, les 100%, là si on fait un vote. Personne qui se dit, mais moi je veux pas réussir ma vie. Personne. Donc on veut tous réussir notre vie. Et ce qui nous qualifie devant Dieu, c'est un cœur assoiffé de lui et de sa présence. Jésus va venir avec ce message bouleversant. J'aimerais qu'on puisse vraiment, vous avez de l'imagination, on l'a dit tout à l'heure, que vous puissiez imaginer ce passage que je vais lire, et de l'imager dans votre esprit. Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La suite nous dit, la conséquence de tout ça, si on boit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, se sous-entend, ben, ton puits, il va y avoir toujours de l'eau, va retenir l'eau jusqu'à déborder, alléluia, sur les plaines environnantes. Que Dieu soit béni. Amen. Le dernier jour de la fête, pourquoi ? Des fois, il y a des petits détails, maintenant vous le savez, les petits détails. C'est parce qu'en fait, la fête, elle durait 8 jours. Et pendant ces 8 jours, on prenait de l'eau, c'était la fête de la purification, on allait à la source, on ramenait l'eau, et pour la purification, Jésus qui a vu donc faire le peuple pendant 7 jours et se dire, mais en fait, ils vont à la source, ils vont chercher de l'eau et leur cœur est aussi sec à chaque fois. Et c'est dans ce contexte qu'il vient avec ce message. Il dit, mais si quelqu'un a soif, n'allez pas dans une religion, n'allez pas après un homme, qu'il vienne à moi, il faut le dire ces paroles. Qu'il vienne à moi. Et c'est lui qui le fait, alors des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. La soif, c'est un signal d'alarme qui déclenche quand le niveau d'eau de notre corps baisse de façon alarmante. Quand on a soif, en fait, c'est le corps qui crie un signal d'alarme. Alors, des fois, c'est terrible parce que des fois, il y a certaines personnes, on a pu l'expérimenter dans la famille, donc ne se souvenez plus que, en fait, il fallait boire. Et c'est terrible. Hein. Ensuite, on sait les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et lorsque nous avons soif, nous devons aller à la source pour y trouver l'eau pure et efficace qui va répondre à tout et à tous nos besoins. Alléluia. Soif, mais de quoi ? On l'a dit, de sa présence. Soif de sa parole. Soif de son onction. Soif de ses promesses. Alléluia. Ses attitudes vont nous permettre de recevoir l'eau fraîche de la part de Dieu. J'aimerais vous poser une question toute simple. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes là, de quoi vous vous contentez ? D'un verre d'eau ? On a pu le voir, le partager avec certaines personnes. On a une vie chrétienne, on s'arrange, on s'adapte. Un verre d'eau, de temps en temps, une réunion bénie. Ou alors tu poursuis le Seigneur avec cette prière. Seigneur, inonde-moi de cette eau dont tu me fais la promesse. Et si cette prière est dans votre cœur, alors on va être attiré par Dieu. Au point que, en fait, on va être inondé, on va être rempli de cette eau. Et qu'est-ce que Dieu a en réserve pour tous ceux qui ont soif, qui sont assoiffés de toutes ces choses ? Regardez ce qu'il est dit, Matthieu 7, 7. C'est facile à retenir. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Remarquez ici qu'il n'est pas dit, c'est Dieu lui-même qui va demander, ce qu'il va chercher et qui va frapper. Ça, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de demander, c'est de chercher, c'est de frapper. Alors le Seigneur, il nous ouvrira. Et quand il ouvre, il donne, je l'ai dit plusieurs fois, donc son eau vive. Il nous donnera la force nécessaire pour aller plus loin. La question, elle est celle-ci. Hein. Avez-vous soif de plus ? Avez-vous soif d'aller plus loin avec le Seigneur ? Ou alors vous allez toute votre vie vous contenter de ce verre d'eau. Ou alors vous voulez aller dans ce fleuve dont Ézéchiel nous parle. Hein. Un fleuve à la fin où on ne pouvait plus nager. En fait, c'est tellement abondant qu'on se laisse porter dans la présence de notre Seigneur. Si c'est notre cas, si c'est votre prière, alors le Seigneur va venir alimenter notre cœur assoiffé. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci pour, Seigneur mon Dieu, toutes les bonnes choses que tu veux pour chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, tu cherches un homme, une femme, assoiffé. soit fait de toi. Seigneur, je veux te prier pour que tu suscites à nouveau la soif, peut-être pour quelqu'un. Seigneur, que tu ne puisses pas laisser dans ce même état, qu'il n'y ait pas ce contentement, qu'il n'y ait pas la paresse, ce laxisme, Seigneur mon Dieu, mais qu'au contraire, nous puissions te rechercher, toi, le grand Dieu de l'univers, afin d'être complètement abreuvé, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Seigneur, merci encore pour toute ta parole et que ton nom soit béni. À toi la gloire. Amen. Alléluia.